ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Auditeur de Calanma Radio, bonjour. Vous écoutez Couleurs du Monde, l'émission mensuelle qui parle de plein de choses, selon nos humeurs. La maîtresse de cérémonie habituelle, Emma, étant fort occupée, nous avons pris le relais. Donc, au micro, moi-même, prof Patrick, et Jean-François, notre spécialiste de géopolitique, et dire tiens, il y a peut-être un indice. Oui, il y a un indice. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité, d'un pays. Au centre de l'actualité, il s'agit de l'Iran. Jean-François, qu'est-ce qu'on va en dire sur l'Iran ?
Ouais, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, on part pour l'Iran. Un pays qui fascine, autant aussi qu'il interroge, car c'est un pays dont ne seul évoque des images vraiment contrastées. On peut partir des coupoles turquoises d'Ispahan, par exemple, au tapis, aux mille motifs, mais aussi les images de révolution, de voile imposé, de tensions géopolitiques, comme tu l'as dit, hein, t'en as parlé, qui font régulièrement quand même la une de nos journaux, et surtout en ce moment.
Un peu plus depuis un mois, là, voilà. On va dire.
Alors l'Iran, c'est d'abord une civilisation très ancienne, l'une des plus riches de l'histoire humaine. Tu dois connaître la Perse antique, si ça te rappelle tes cours d'histoire
vaguement,
de lycée.
Très vaguement.
Les empires de Darius, Xerxès.
D'accord.
Contre les Grecs, voilà. C'est vraiment le berceau d'un empire qui s'étendait de la Méditerranée à l'Inde, mm-hmm. et qui a laissé une empreinte profonde sur la culture, la langue, la philosophie et les arts de toute une région du monde. Mmh. Bah, aujourd'hui encore, les Iraniens, ils portent avec fierté cet héritage multimillénaire, et cette fierté nationale, c'est une clé essentielle vraiment pour comprendre leur rapport au monde et à leur propre histoire.
Dans nos perceptions, on a peut-être tendance à effacer un peu l'héritage perse au profit du monde arabe, ouais. qui a pris un peu toute la place dans notre imaginaire.
Oui, alors qu'ils ont cette particularité justement d'être au Moyen-Orient, mm-hmm. une patrie différente du
Tout
monde
à fait.
Arabe. Alors géographiquement, l'Iran, c'est vraiment très très grand, hein. Ça fait près de 1,7 million de kilomètres carrés, soit plus de 3 fois la France, pour vous donner
une
petite idée.
Oui, c'est un grand pays, on ne s'imagine pas quand on ne voit pas la carte.
Il est bordé au nord par la mer Caspienne et les républiques de Caucase, et à l'est par l'Afghanistan et le Pakistan. Oui. Au sud, on a le golfe Persique, dont on parle beaucoup en ce moment, vous devez réussir à situer maintenant, mm-hmm. avec la mer d'Oman. Et mm-hmm. à l'ouest, il y a la Turquie et l'Irak. Alors, ce positionnement, ça en fait vraiment un facteur incontournable, un acteur incontournable du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Sa population, elle est d'environ 90 millions d'habitants aujourd'hui.
Oui, c'est ça qu'il faut poser. C'est un pays très peuplé,
très
d'accord.
Ouais.
C'est pas un petit bouclard comme les États des Émirats.
Non, par rapport à ses voisins, effectivement, ouais, c'est quand même très peuplé. Mais c'est une population qui n'est pas si homogène que cela. Hein. Bien sûr, les Perses, c'est le groupe majoritaire, ils sont à peu près 60%, mm-hmm. mais en Iran, il y a aussi des Azéris, des Kurdes, des Arabes, des Baloutches et bien d'autres minorités également.
D'accord.
C'est donc une mosaïque ethnique, mais aussi linguistique, à laquelle s'ajoute une diversité religieuse. Alors, on a l'islam chiite, hein, c'est un pays vraiment du chiisme.
Oui. Oui.
C'est religion d'État depuis 1501 quand même, le chiisme,
ah oui.
donc c'est
D'accord.
ancien.
Très voilà. ancré.
90% pardon, de la population du pays est chiite. Mm-hmm. Et en Iran, il y a à peu près 40% de la population chiite mondiale. Donc c'est
ah
assez
oui.
conséquent.
D'accord. Mais c'est le centre du chiisme quoi, mondial.
Ouais, c'est ça. Ce chiisme coexiste avec des communautés sunnites aussi.
Ouais.
Zoroastrienne également. Très
ah
ancienne.
Oui, alors ça, c'est, ça remonte à loin, ça. Zoroastra. Zarathoustra en d'autres mots.
Ouais. Mmh. On a aussi des chrétiens et puis quelques populations juives.
D'accord.
Et vraiment, c'est cette complexité civilisationnelle, géographique, humaine qu'on va essayer de démêler ensemble au fil de mmh. cette émission. Alors, on va traverser 2 siècles d'histoire à peu près, de la fragilité de la Perse du XVIIIe siècle jusqu'aux vraiment aux tensions qui secouent aujourd'hui la République islamique.
Oui, évidemment, on ira jusqu'à
voilà,
aujourd'hui.
Hein, on va
évidemment.
Aller jusqu'à aujourd'hui. On va faire aussi une petite halte littéraire par l'œuvre de Marjane Satrapi, mais de manière assez courte et rapide.
Très bien, très bien. Eh bien, va falloir y aller, c'est parti.
Calade.
Les couleurs du monde.
Dans une première partie, de quoi va-t-on parler, Jean-François ?
On va parler plutôt d'autoritarisme et d'instabilité politique de l'Iran, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au dernier Shah, c'est-à-dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Ok, un petit déroulé historique donc, qui nous amènera jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale,
ouais,
c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Ok.
Donc, pour vraiment comprendre l'Iran contemporain, il faut quand même remonter au tournant du XIXe siècle, à une époque où la Perse, c'est son nom jusqu'en 1935, est gouvernée par la dynastie Qajar. Alors, c'est une dynastie qui va régner de 1794 à 1925 et dont l'histoire, c'est celle quand même d'un pouvoir assez fragile, hein, constamment menacé de l'intérieur comme de l'extérieur. À l'intérieur, le pouvoir central, il peine quand même beaucoup à s'imposer, parce que la Perse Qajar, bah, c'est pas un État au sens moderne du terme. Oui. C'est plutôt une mosaïque de pouvoirs locaux, de chefferies tribales, des fiefs religieux également. Hein. Les chefs tribaux, ils sont kurdes, bakhtiari ou kashkai, et ils contrôlent vraiment de très vastes territoires qui n'obéissent aux Shah que lorsqu'ils n'ont pas le choix.
D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que là, le pouvoir chiite n'avait pas encore mis la
non,
main sur l'ensemble du territoire,
non,
n'avait pas pris le contrôle.
Fait, ouais. Mais le pouvoir chiite était quand même assez important, puisque les oulémas, le clergé chiite, ils exercent quand même une influence considérable sur la population, souvent d'ailleurs bien supérieure à celle du pouvoir politique,
oui,
mais plutôt sur
sûr.
Les mentalités, on va dire. Alors l'État est donc faible, les finances sont vraiment désastreuses, l'administration est encore embryonnaire, et pour enfler des caisses qui sont souvent très vides, les Shah Qajar, ils n'hésitent pas à vendre des concessions économiques aux puissances étrangères.
Ah oui, je rappelle qu'on est au 19e siècle, dans l'essentiel de cette période que tu décris. Donc c'est sûr que là, il y a l'appétit des pays occidentaux qui est
là,
aiguisé.
Hein. Et cette vente de concessions des puissances étrangères, ça aggrave le ressentiment populaire. D'accord ?
Bien évidemment.
Donc en géopolitique, finalement, là, à l'extérieur, la Perse, elle se retrouve prise en étau entre deux empires vraiment très forts qui sont des empires en plus rivaux et qui convoitent toutes les ressources de la Perse et la position stratégique de la Perse. Alors au nord, on a la Russie tsariste, la Russie impériale, qui est vraiment en pleine expansion vers le sud et qui arrive à arracher des territoires caucasiens à l'Iran. Hein. Par exemple, l'Azerbaïdjan, une partie de l'Arménie actuelle, par différents traités. Voilà. Alors les défaites militaires, elles sont vraiment vécues comme un traumatisme national. Et puis en plus, au sud, on a la Grande-Bretagne qui veut réussir à protéger l'Inde du mieux possible, qui va surveiller vraiment les routes commerciales et stratégiques. Elle s'impose ainsi, cette Grande-Bretagne, en 1872 par une concession extraordinaire qui est faite par un baron britannique, Sir Julius de Ruyter, qui donne le contrôle de quasi toutes les ressources économiques du pays. Et c'est une concession qui sera finalement annulée à cause de la pression populaire, mais qui illustre à quel point la Perse vraiment est devenue une proie pour ces grands empires.
D'accord.
La Perse, comme vous l'avez compris, ça devient le théâtre de ce fameux grand jeu du 19e siècle entre la Grande-Bretagne et la Russie. Finalement, la Perse n'a plus vraiment de souveraineté réelle. D'accord ? Alors en 1907, les deux puissances, elles vont signer un accord entre elles, sans même consulter la Perse, à propos de la Perse, et ils vont diviser les pays en zones d'influence.
Carrément ?
Carrément. Hein.
Ah oui, d'accord.
Le nord, il va plutôt être pour la Russie. Le sud pour la Grande-Bretagne, et une bande centrale sera officiellement dite neutre, et cela est forcément vécu comme une humiliation supplémentaire qui se grave vraiment dans la conscience nationale iranienne, et on a une méfiance durable envers les grandes puissances.
Alors c'est marrant parce qu'on a une forme de colonisation qui ne dit pas son nom, quoi, en quelque sorte.
C'est
on
ça,
passe
ça
même pas par l'affirmation officielle de la colonisation, mais le résultat elle-même. Quoi.
Ouais, c'est, ça.
C'est vraiment une prise de contrôle du pays, économique, politique, et une humiliation, effectivement, pour les populations. Et donc pourtant, cette humiliation n'est pas sans réaction, donc la société civile va commencer à s'organiser, mais qu'est-ce qu'elle peut faire avec des adversaires aussi puissants que la Russie et la Grande-Bretagne ?
Ouais, tout à fait. Hein. Comme tu le dis, Patrick, cette humiliation, elle n'est pas sans réaction. Et dès la fin du XIXe siècle, on a une opinion publique iranienne qui commence à s'organiser avec des intellectuels, des marchands du bazar, des clercs réformistes qui se retrouvent pour réclamer des comptes au pouvoir.
D'accord.
Ainsi, en 1891, il y a une concession qui est accordée à une compagnie britannique sur le tabac, qui est vraiment une denrée vitale pour l'économie locale. Et tout cela va déclencher un boycott populaire massif qui va être soutenu par le clergé chiite, par les oulémas.
D'accord.
Le Shah doit donc reculer. Et c'est une première victoire et une leçon. La société civile, lorsqu'elle s'unit, elle peut faire plier le pouvoir.
Alors, je fais une petite parenthèse. Le Shah en question, ça s'écrit S-H-A-H, c'est l'ancêtre, entre guillemets, du Shah qui est des Shahs divers qui vont suivre au XXe siècle.
Ouais.
C'est la dynastie familiale qu'on appelle...
Là, c'est les Qajars et on va voir la dynastie Pahlavi après. Dans pas longtemps, ça va pas tarder.
Ah, donc le chat, c'est un terme pour désigner le
chef d'État, quoi.
Le boss, quoi.
Ouais, c'est ça.
D'accord, excuse-moi.
Donc finalement, toute la dynamique qu'on vient de voir, ça va aboutir en 1906 à une révolution constitutionnelle qui est faite sous la pression d'une coalition inédite avec des intellectuels, des marchands, des clercs. Et le chat va être contraint d'accepter une constitution et l'établissement d'un parlement qu'on appelle le Majlis en Iran. Donc c'est vraiment un moment fondateur dans l'histoire iranienne, puisque pour la première fois, le pouvoir du monarque est limité par un texte et les représentants du peuple ont voix au chapitre, peuvent parler.
Ouais, donc c'est le début d'une forme de démocratie un peu à l'occidentale.
Voilà, une petite forme de démocratie à l'occidentale. D'ailleurs, on a des proto-institutions parlementaires qui s'installent, ce qui est un motif de fierté, mais bon, ça ne va pas vraiment tenir dans le temps.
Ouais, pour devenir une vraie démocratie effective,
voilà, c'est très fragile. Déjà parce que les puissances étrangères elles vont saboter ce projet.
Bien sûr.
La Russie, elle va bombarder le Parlement en 1911 et elle va soutenir les forces réactionnaires. La Grande-Bretagne, elle ne va pas faire mieux finalement. Les conservateurs y résistent et les querelles entre factions, elles vont paralyser le Parlement.
Oui, parce qu'on voit que ceux qui avaient un peu forcé cette mutation, c'était plutôt des progressistes. Hein.
Oui,
c'est pour ça que tu parles de forces réactionnaires qui vont être appuyées par les Russes pour
contrôler tout cela,
essayer de faire reculer ce pouvoir trop progressiste.
Puis tu l'as vu dans le temps, on arrive sur la Première Guerre mondiale et puis cette Première Guerre mondiale, elle va achever de dévaster un pays qui est officiellement neutre, mais qui est traversé par des armées de tous les belligérants, en fait. Hein. Et finalement, on va même avoir la famine qui va apparaître, qui va dévaster des régions et des centaines d'Iraniens vont mourir dans une tragédie qui est très oubliée aujourd'hui dans l'histoire mondiale.
Des centaines de milliers, pas des centaines. Hein.
Donc c'est dans ce contexte de chaos et d'humiliation qu'un homme va s'imposer. Il s'agit de Reza Khan. C'est un officier de la brigade Cosaque, qui est une unité militaire formée par des officiers russes pendant longtemps. C'est un homme du peuple, lui, qui n'a pas beaucoup d'éducation, mais il a une volonté de faire et un sens aigu quand même du pouvoir. Alors, en 1921, il va réussir à organiser un coup d'État qui va lui donner le contrôle du gouvernement.
D'accord.
Et en 1925, 4 ans plus tard, il va renverser la dynastie Qadjar et il va se faire couronner chat à son
tour.
Et il fonde ainsi la dynastie Pahlavi, du fameux chat qu'on
voit plus loin. Voilà, la famille de chats du XXe siècle, c'est les Pahlavi, à partir de Reza Khan.
Et oui.
D'accord.
Et finalement, Pahlavi, ça vient d'où ? Ça vient du nom de la langue de l'Iran antique et donc c'est un geste symbolique.
D'accord, c'est pas le nom de la famille, effectivement, c'est un nom symbolique qu'ils ont choisi. D'accord.
Alors, Reza Shah, il a un modèle, c'est Mustafa Kemal, qui en Turquie fait des réformes quand même assez moderne, assez laïque.
Ouais,
il va essayer de faire la même chose, mais c'est une modernisation quand même autoritaire, très rapide. Alors, il fait construire des routes, il fait construire des voies ferrées, il réforme le système éducatif, il va créer par exemple une université moderne à Téhéran.
D'accord.
Il envoie des étudiants en Europe aussi, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Il affaiblit le clergé chiite, il lui retire des pans entiers de la justice et de l'éducation qu'il avait autrefois. Il interdit le port du voile également pour les femmes. Il va moderniser l'armée, centraliser l'administration et soumettre les tribus par la force et la violence.
Alors, on voit bien l'influence donc, de la Turquie, des réformes de Mustafa Kemal.
Oui.
Et on voit bien là aussi, derrière ça, il y a un côté moderne, laïque, etc.
Oui.
Mais c'est aussi le combat pour affaiblir l'autre force ultra-dominante de la société, iranienne qui est le clergé. Oui,
effectivement. Ouais. Alors ce chat, qu'est-ce qui est en 1935, il va continuer. Il va rebaptiser le pays Iran. C'est la première fois qu'on entend ce terme Iran.
D'accord.
C'est un terme que les Iraniens ont toujours utilisé pour eux-mêmes, pour désigner leur patrie, là où nous, occidentaux, on parlait plutôt de Perse.
Ouais,
alors ce changement de nom, c'est vraiment un geste de fierté nationale pour les Iraniens, puisque c'est une affirmation de leur identité face au monde. Et ça s'inscrit donc dans une idéologie vraiment nationaliste qui va... finalement exalter leurs racines indo-européennes, ariennes, puisque l'Iran, c'est le pays des Ariens, au sens ethnique, pas nazi, de la civilisation iranienne. C'est donc une idéologie qui n'est pas sans résonance, malgré tout, avec ce qu'on peut connaître en Allemagne à cette époque-là, dans le côté nationaliste. Donc, parce que c'est finalement quelqu'un d'assez paradoxal, ce Reza Shah. Il va moderniser le pays. Mais il le fait de manière très brutale, sans concerter personne, en écrasant toute opposition, avec une police politique qui n'est pas encore la SAVAK, qu'on étudiera plus tard, qui sera avec son fils. Les opposants politiques vont être emprisonnés, exilés, parfois même éliminés. Et la modernisation, finalement, se fait sans le peuple et souvent contre le peuple. Et finalement, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, ses sympathies avec l'Allemagne nazie vont rendre sa position finalement intenable aux yeux des alliés. Et en août 1941, 41, pardon, les troupes britanniques au sud et les soviétiques au nord vont envahir l'Iran pendant quelques jours.
Et là, les bonnes habitudes perdurent. Hein, donc, les Russes sont devenus des soviétiques et sont toujours au nord et les Britanniques au sud.
Hein. Donc, tu as bien compris que le pays est encore une fois occupé par les grandes puissances. Reza Shah est contraint à l'abdication. Il va partir en exil et il va mourir en Afrique du Sud en 1944 et il va être assez rapidement oublié.
D'accord.
Et donc, c'est son fils qui va lui succéder, Mohamed Reza Pahlavi. Il a 21 ans seulement, il est très jeune, expérimenté, éclipsé par les puissances d'occupation quand même. Et rien, à ce moment-là, ne laisse présager qu'il régnera 38 ans et qu'il sera le dernier Shah d'Iran.
Galade. Les couleurs du monde.
Ok, très bien, on y voit un petit peu mieux sur ce petit déroulé historique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On passe à quoi maintenant? Alors explique-moi.
Bah, maintenant, on va voir un petit peu, dans cette deuxième partie, justement, qui est Mohamed Reza Pahlavi, qu'est-ce qu'il a fait et quelle est la situation de l'Iran dans la guerre froide, dans une situation quand
donc,
même
Donc, entre la Deuxième
difficile.
Guerre mondiale et les années 70, on pourrait dire.
Ouais, voilà, et 79, on va s'arrêter avec la révolution
D'accord.
iranienne où il va perdre son pouvoir. Donc, dans la guerre froide, le Shah est donc très jeune, il est sur le trône, son pays est affaibli, est traversé par des troupes étrangères qui viennent à peine de se retirer et rapidement le monde est divisé en deux blocs. L'Iran va donc se retrouver une fois encore au cœur des rivalités qui la dépassent et cette fois les conséquences vont être vraiment durables.
Mmh.
On a la montée de l'autoritarisme qui se fait au lendemain de la guerre puisque, bon, certes il y a une brève mais réelle période d'effervescence démocratique, mmh. c'est presque une parenthèse enchantée finalement dans une histoire politique vraiment tourmentée. Les partis politiques se multiplient, la presse elle va réussir à s'exprimer avec une liberté inédite et des débats intellectuels vont foisonner, vont exister. La société iranienne respire enfin et dans cet air nouveau, on a une figure qui émerge et qui va marquer durablement l'histoire du pays et la mémoire de tout un peuple, c'est celle de Mohammad Mossadegh. Alors Mossadegh, c'est qui ? C'est un personnage hors du commun, juriste de formation. Il est issu de la grande aristocratie iranienne. Il aurait pu choisir une vie assez confortable et celle des honneurs, mais il choisit plutôt l'intégrité et la résistance. Il est parlementaire. Il est connu pour son refus de toute compromission avec les puissances étrangères.
Mmh.
Et ce caractère impressionnant, ça jure un peu avec son physique qui est très frêle. Il est quelqu'un d'assez fragile.
Ouais.
Parfois, il lui arrive de rester alité, faire des conférences de presse depuis son lit en pyjama. Voilà. Mais malgré tout, c'est un orateur très puissant, très connu et qui affiche sa fragilité assez facilement puisqu'il lui arrive de pleurer, par exemple, facilement devant son peuple, ce qui est assez étonnant. Donc, il incarne finalement, comme peu d'hommes l'ont fait et savent le faire, l'aspiration à une souveraineté vraiment iranienne, réelle et digne.
Et quoi, c'est quelqu'un qui va être une... comment dire, il va avoir une popularité nationale comme figure politique majeure,
ouais,
c'est ça ?
Exactement. Et puis,
d'accord.
il va faire aussi une œuvre politique assez majeure pour défendre le nationalisme iranien, mais dans le bon sens, on va dire, comme tu vas le comprendre, avec les enjeux économiques
d'accord.
et les grandes puissances qui vont vouloir s'emparer du pétrole avant tout iranien.
En tout cas, c'est ce prestige qui l'amène à être nommé Premier ministre en 51, c'est ça ?
En 51, c'est ça, exactement.
D'accord.
Et très vite, il va passer à l'acte, il va faire voter par le Parlement la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne. Or, en fait, elle appartient à qui, ce pétrole ? À la compagnie britannico-iranienne Anglo-Iranian Oil Company, qui est, mm-hmm. vous connaissez aujourd'hui sous le nom de British
BP.
Petroleum,
d'accord.
BP.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment un acte révolutionnaire.
Ah oui, ça ne s'appelait pas généralement.
Et oui.
En Occident.
Donc, le pétrole iranien extrait du sol iranien par des travailleurs iraniens, il enrichissait pendant des années et des décennies, même Londres, bien plus que Téhéran. Et là,
oui,
Mossadegh, il dit simplement, ça suffit. Ce pétrole, il appartient au peuple iranien, il doit revenir au peuple iranien.
Mmh.
La réaction populaire est immense et Mossadegh devient un héros national qui va être adulé dans les rues, célébré par la presse internationale. Le magazine Time en fait même son homme de l'année 1951.
Carrément.
Mais
ouais.
à Londres et à Washington, la fureur est froide et déterminée.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est ici que les États-Unis vont entrer dans l'aventure, on pourrait dire, hein, dans l'aventure de l'histoire de l'Iran. Et ils vont arriver et tout débouler comme un chien dans un jeu de quilles et vont tout changer. Hein.
Ouais, exactement. Hein. Parce que les Britanniques, ils vont imposer un embargo sur le pétrole iranien. Ils vont étrangler cette économie
d'accord.
du pays.
Mmh.
Et ça, ils ne vont pas le faire tout seuls. Ils vont le faire avec les États-Unis, qui sont d'abord réticents. Mais ils prennent pour eux conscience que Mossadegh, c'est une menace. Ils pensent que Mossadegh risque risque de faire basculer l'Iran dans l'orbite soviétique. Mmh. On est en pleine guerre froide, donc ça suffit pour eux d'agir.
Et puis un peu, c'est assez facile. Le prétexte pour les Américains, c'est voilà, ils sont dans le camp soviétique et comme ça donne carte blanche pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent derrière.
Comme ils savent le faire. En août 53, ils font intervenir la CIA. Il y a également le MI6 britannique qui intervient et ils vont organiser un coup d'État. Donc ça s'appelle l'opération Ajax pour les Américains ou Boot pour les Britanniques. Et des agents vont s'infiltrer, vont payer des manifestants, vont soudoyer des officiers et organiser des émeutes. Mmh. Mossadegh est alors renversé et il sera arrêté, jugé par un tribunal militaire et condamné à 3 ans de prison, puis assigné à résidence dans son village natal où il va mourir en 1967. Mmh. Malgré tout, il ne va jamais demander grâce, il va toujours affirmer sa fierté et son rôle. Alors le chat, entre-temps, il n'était plus là, il avait fui en Irak, puis en Italie, et il revient en Téhéran dans les bagages des Américains. Mmh. Et ça, tout le peuple iranien le sait. Tout l'Iran le sait. Et ça fait du mal à la popularité du chat.
Il va devenir, dans l'esprit de tout le monde, je pense, le pantin, quoi, le pantin des Américains.
Exactement, exactement. C'est vraiment une conviction durable chez les Iraniens. Les États-Unis, c'est une puissance impérialiste, prête à sacrifier la démocratie, à piétiner la souveraineté du peuple iranien pour protéger ses intérêts économiques, tout simplement, et stratégiques. Donc ça va traverser vraiment l'histoire, encore aujourd'hui, ça se voit.
Donc on voit bien qu'on est en 53, et c'est à partir des années 50 qu'il y a vraiment eu une tension, pour ne pas dire plus, entre l'Iran et les États-Unis,
à partir de ce moment-là.
Il ne faut pas l'oublier quand même, ça. C'est le point de départ de ce qui va suivre.
On va le revoir, Khomeini va l'utiliser dans sa rhétorique tout le long, c'est vraiment très important.
Tout commence dans les années 50.
Et oui. Donc le chat, il est bien au pouvoir, il est protégé par Washington et il va engager l'Iran dans une alliance très étroite avec les États-Unis. Cette alliance, elle va être militaire, économique, politique. Il va acheter des armes américaines en quantité et des armes israéliennes également. Il va accueillir des conseillers américains, adhérer au pacte de Bagdad qui est un pacte contre l'Union soviétique dans la guerre froide.
Okay.
En échange, il a un soutien de Washington qui va fermer les yeux sur toutes les répressions intérieures que peut faire le chat.
Bref, il donne aux Américains ce qu'ils ont envie d'entendre et puis comme ça, en contrepartie, il est soutenu quelles que soient ses actions et ses méfaits en interne.
Et des méfaits, il va en faire un paquet maintenant parce que la répression va s'intensifier avec la SAVAK, qui est l'Organisation de Renseignement et de Sécurité Nationale, qui est créée en 1957. Et Mossadegh, il va surveiller, infiltrer, grâce à la SAVAK, les prisons, faire des tortures, des méthodes malheureusement très célèbres. Mmh. Et aucune opposition n'est désormais tolérée. Les intellectuels, les syndicalistes, les militants de gauche, les religieux contestataires, tous vont connaître les prisons, les geôles iraniennes.
Bon, on est un petit peu dans la reproduction de ce que les Américains ont fait encore et encore en Amérique du Sud, au Chili, notamment. Ils renversent un pouvoir, ils mettent au pouvoir un dictateur d'extrême droite qui massacre tous les opposants.
En 63, le chat, il va lancer la Révolution blanche. C'est un grand programme de réforme par le haut, donc des réformes agraires, un droit de vote qui est accordé aux femmes, l'alphabétisation qui va s'améliorer un petit peu, l'industrialisation qui s'accélère. Donc on a une croissance économique spectaculaire qui est portée par la manne pétrolière et l'Iran va se couvrir de gratte-ciel, d'une classe urbaine moyenne qui va s'épanouir, d'universités.
Donc il y a un début de développement économique à ce moment-là.
C'est ça, ouais. Mais sous la surface, on a quand même une colère très forte qui va monter.
Répression politique terrible, bien sûr.
Tout à fait. Et c'est le moment pour nous de faire une première pause musicale.
Très bien.
Avec un extrait que je vous laisse écouter. On
en parlera après.
قمیونه دو تو چشم خونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشم خونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل دفهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رد گل یخ توی دلم جوان تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان بکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون بکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی یه دلم جوون میکرده قمیونه تو تو چشمی قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاه خونه کرده دو تا چشمون سیاه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره تو چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رد گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده
du monde.
Vous écoutez Calenma Radio, notre émission de ce mois se penche sur ce pays au centre de l'actualité qui est l'Iran. Nous avons commencé par un petit déroulé historique qui nous a permis d'arriver à peu près aux années 70 et nous irons bien sûr jusqu'à la période actuelle et sous les troubles qu'il y a actuellement. Nous venons d'écouter, je ne sais pas quoi, alors qu'est-ce que nous venons d'écouter Jean-François ?
On vient d'écouter Goleyak de Kourosh Yagmaï et d'accord. Si j'ai choisi cette chanson c'est parce que ça résonne avec l'influence occidentale en Iran dans les années 70. Là, c'est un titre de 1973.
Ouais.
Et c'est du rock psychédélique iranien, ce qui illustre donc cette influence occidentale.
Ouais, cette entrée progressive dans la modernité quand même.
Ouais,
déjà dès les années 60-70.
Ouais. Hein.
Alors, où est-ce qu'on en est, Jean-François ?
Eh bien, on commençait à parler de Conlère qui montait face à la répression du chat.
Ouais, d'accord. Ouais, donc, un début de modernisation, de développement, mais sous une dictature de terrible, quoi.
Terrible, ouais.
Une extrême violence.
Ouais. Et on a une double position qui va se faire de plus en plus visible. Donc, marxiste d'un côté et religieux de l'autre.
D'accord.
Voilà. Donc, la première opposition, elle est laïque, nationaliste et souvent marxisante. Elle se réclame de l'héritage de Mossadegh, donc qu'on a déjà vu, et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la justice sociale également. Elle s'incarne dans des organisations comme le Front National, c'est pas le même que chez nous, hein,
ouais, c'est sûr.
Ou plus radicalement dans les fédahines du peuple, des guérilleros urbains qui choisissent la lutte armée contre le régime dans les années 70. Et il y a également le parti Today qui est proche de Moscou, un parti plutôt communiste. Hein.
D'accord.
Ces mouvements, ils vont payer vraiment un lourd tribut à la répression puisque leurs militants sont arrêtés par centaines, torturés, exécutés. Mais clandestinement, ils continuent, ils s'obstinent dans la lutte.
Alors, on est typiquement dans les révolutionnaires des années 50-70,
ouais,
c'est-à-dire vraiment à dominante marxiste, en
oui.
quelque sorte, en
ouais.
termes de...
Du classique de ces années-là.
Biologie politique, hein,
ouais.
c'est vraiment le classique de ces années-là.
Deuxième opposition, moins classique,
mais voilà.
dans ce qu'on connaît, puisque c'est une opposition religieuse qui est vraiment ancrée dans le clergé chiite et les réseaux des mosquées. Alors, parmi les voix qui s'élèvent, il y en a une qui domine et qu'on connaît encore, hein, c'est celle de l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Théologien vraiment austère, inflexible, doté vraiment aussi d'un sens politique quand même redoutable.
Mm-hmm.
Il va commencer à s'opposer publiquement au chat dès le début des années 60.
D'accord.
En 64, après avoir dénoncé la révolution blanche et l'immunité accordée aux soldats américains en Iran,
mm-hmm.
Ce qui est d'ailleurs une immunité nationale à ses yeux.
C'est
hein.
quoi cette histoire d'immunité ? C'est immunité pour quoi ?
Bah, par exemple, si...
Quel délit ou crime qu'ils commettent, ils ont l'immunité,
voilà,
c'est
ça, hein, des viols, par exemple.
Ah ouais, carrément.
Immunité, voilà.
Effectivement, ils ont encore... Encore une couleuvre qui a dû être difficile à avaler.
Exactement.
Pour les Iraniens.
Et du coup, Khomeini, il est arrêté et puis il va être exilé. Il va vivre en Irak, à Najaf, qui est une grande ville sainte chiite.
Mm-hmm.
Et puis en 1978, il arrive en France, à Nofle-le-Château, en région parisienne, pour vivre son exil.
Tout à fait.
Mais malgré son exil, il continue de parler à son peuple.
Mm-hmm.
Ainsi, ses sermons, ses discours, il va les enregistrer sur des cassettes audio qui
mm-hmm.
vont être copiées, recopiées et diffusées un peu partout clandestinement en Iran.
D'accord.
C'est donc une révolution par la cassette, ce qui est assez récent. Hein. C'est une des premières utilisations politiques de masse d'une technologie de communication.
Et de la part de partis religieux, c'est très étonnant.
En plus, ouais. Et son message est très simple, radical et assez efficace. Le chat, c'est quoi ? C'est un tyran corrompu, vendu aux Américains et aux Israéliens.
Bon, après, il a totalement raison, c'est factuel, hein, ce qu'il affirme.
C'est ça qui marche, quoi, finalement. L'islam, pour lui, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un système politique vraiment complet. Une alternative à l'impérialisme occidental. Et aussi au communisme
ouais.
athée, hein, parce qu'il n'aime pas les communistes non plus.
Et oui, c'est que là, on voit derrière filigrane, c'est que ce sera eux, les chiites en quelque sorte, ou des révolutionnaires marxistes, mais ce ne sera pas une alliance de ces deux-là.
C'est hein. ça,
ces
c'est
chiens
pas
et chats, ils ne peuvent pas s'entendre.
Ouais, ouais, ouais. Donc en 1978, tout va s'accélérer, Patrick.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que de l'extérieur, c'est-à-dire de chez nous, hein, de l'Occident, on croit que le régime est solide, il apparaît assez puissant économiquement, hein, puisqu'il
ouais.
s'est quand même pas mal développé.
Ouais.
Et puis en plus, il est soutenu par les États-Unis. On dit qu'est-ce qui peut lui arriver hein
bah, oui,
il ne peut rien lui arriver de grave à celui-là.
Mais oui, mais il y a des maladresses quand même. Et
alors,
tout
comment
part...
il est... qu'est-ce qui se passe bah, il va s'effondrer en fait.
Oui, il va s'effondrer parce qu'il y a un article de presse très insultant envers Khomeini qui va déclencher des manifestations. La répression va faire beaucoup de morts et selon le rituel chiite, on va commémorer les morts 40 jours après leur décès.
D'accord.
Et ces commémorations, bah, elles vont donner lieu à de
D'accord.
nouvelles manifestations qui
okay.
vont à nouveau faire beaucoup de morts.
Ah,
et,
oui.
Et donc, on a un cycle
on part
infernal.
Sur des cycles de 40 jours qui 40... sont à chaque fois l'occasion
de remettre
une pièce dans la machine.
Voilà. Ouais, tout à fait.
D'accord.
Donc, finalement, les grèves vont se multiplier, vont s'étendre à des secteurs clés. Et celle des ouvriers du pétrole, elle va être fatale au régime parce qu'elle prive l'État de ses ressources.
Et oui, bien sûr.
Et, oui. et les manifestations vont rassembler des millions de personnes dans tout le pays, à Téhéran,
oui.
à Ispahan, à Shiraz, à Tabriz, bref, partout.
Mm-hmm.
Le chat, il tente la méthode traditionnelle, la répression,
mm-hmm.
puis des concessions, puis à nouveau la répression, bah, bref, rien qui fonctionne. Il est épuisé, malade. D'ailleurs, on va apprendre plus tard qu'il souffre d'un cancer. Il est aussi profondément désorienté quand même. Comment ce peuple, pour lui, qu'il a pu enrichir, moderniser, peut se retourner contre lui.
Ben oui, mais l'argent ne fait pas tout.
Exactement.
Le confort matériel ne fait pas tout.
Et au final, le 7 janvier 1979, le Shah quitte l'Iran. Alors officiellement, c'est pour des vacances. Hein. mais en fait, il ne va jamais revenir.
Longues vacances.
Il va mourir en exil en 1980, après avoir erré de pays en pays pour avoir un accueil.
Les États-Unis ne l'accueillaient pas ?
Pas seulement, un peu partout.
D'accord, voilà. D'accord.
Le 1er février 1979, Roménie rentre à Téhéran. Et là, c'est les ovations. Des millions d'Iraniens sont là pour l'attendre dans les rues. C'est un moment extraordinaire pour lui, ce vieillard de 77 ans, exilé depuis 15 ans, qui revient renverser un trône millénaire par la seule force de sa parole. Mais très vite, la révolution montre son vrai visage, car cette révolution était plurielle, avec des libéraux, des marxistes, des féministes, des religieux, qui s'étaient tous unis finalement. Finalement contre le Shah.
Oui, pour se battre dans les rues, quoi, en quelque sorte.
C'est ça. Mais Roménie et ses partisans, ils vont mettre moins d'un an à éliminer tous leurs anciens alliés. Les libéraux vont être marginalisés, les marxistes persécutés, exécutés par milliers, et les féministes qui avaient manifesté dès mars 1979 contre l'obligation du voile sont brisés. Le nouvel ordre islamique sera islamique, pardon, ou ne sera pas.
Ouais, alors c'est un classique quand même. À chaque prise de pouvoir vraiment révolutionnaire, on se souvient des soviétiques, c'est la même chose. Ils éliminent tous leurs alliés. C'est pas très surprenant.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est dans à cette époque précise, 79, la révolution iranienne est faite, que on va naître une œuvre dont on va parler maintenant, une œuvre littéraire. Hein, c'est au départ une bande dessinée qui raconte de l'intérieur cette révolution trahie, mais de la part d'un enfant, du point de vue d'un enfant.
C'est ça.
Et je parle donc de...
Eh ben de Persepolis, de Marjane Satrapi.
Et l'enfant en question, c'était Marjane Satrapi. Marjane. Elle raconte son histoire dans cette
bande
dessinée.
C'est une autobiographie, tout à fait.
Tout à fait.
Donc cette révolution, tous ces espoirs, toute la trahison, les conséquences sur des êtres ordinaires vont être racontées donc, par Marjane Satrapi et Persepolis. Donc c'est une bande dessinée autobiographique qui est publiée entre 2000 et 2003 en 4 volumes, mais que vous pouvez retrouver facilement en intégrale.
Oui, en un seul volume, c'est un très très beau.
Et elle raconte son enfance, son adolescence à Téhéran, depuis la révolution de 79 jusqu'à son départ en exil à l'âge de 14 ans, puisqu'elle est obligée de quitter le pays devant la révolution islamique. Son titre, il fait référence à l'ancienne capitale de l'Empire perse, qui est symbole d'une civilisation qui a été glorieuse. Et elle porte cela comme un héritage précieux et douloureux. Alors ce qui frappe vraiment, c'est le choix graphique, avec des dessins qui sont en noir et blanc.
Tout noir et blanc,
Très épurés, presque naïfs. Il n'y a pas vraiment d'effet de style. Pas de réalisme photographique.
Non, pas du tout.
Ouais. Pourtant, la vérité émotionnelle, elle est vraiment présente, elle est absolue, elle est là, quoi. On est tout de suite dans la tête de Marjane, qui se fait appeler Margie dans ce roman, dans cette autobiographie, qui est une petite fille très vive, très drôle, très curieuse. Elle essaie de comprendre le monde qui l'entoure, avec des outils quand même qui sont limités par rapport à son âge.
Alors, dans quelle famille elle est située?
Elle est plutôt dans une famille de classe moyenne, assez progressiste, marxisante quand même, laïque.
Voilà.
Les parents sont cultivés, ils font lire Marx d'ailleurs.
Ils ne sont pas trop en harmonie avec le pouvoir en place
depuis
la révolution.
Non, pas avec le Shah du tout. Oui, ni avec la révolution.
Alors, pas avec le Shah, mais pas non plus avec
ni l'un ni l'autre. Après, donc, elle a cette désillusion avec la révolution. Elle a le voile obligatoire à l'école, la guerre avec l'Irak dont on parlera après, les bombes un peu partout sur Téhéran, des camarades qui peuvent mourir sur le front, des oncles, des amis qui sont arrêtés, torturés, exécutés par le nouveau régime, et cet horizon qui se referme.
Ouais.
Et finalement, ce que réussit Marjane Satrapi avec talent, c'est de raconter l'histoire avec un grand H à travers sa petite histoire à elle, celle d'un petit H, d'une fillette, d'une famille, d'un quartier. La révolution ici, c'est pas une abstraction, c'est vraiment la voisine qui disparaît, le voile qu'on apprend à détester, le mensonge qu'on apprend à pratiquer pour survivre. C'est aussi l'humour qui permet de résister, la tendresse qui persiste avec sa grand-mère, par exemple, et la vie qui continue malgré tout.
Ouais. Alors, il y a eu une adaptation film d'animation.
En 2007, si vous ne voulez pas lire le livre, c'est possible de passer par la...
Qui est très chouette aussi, je l'ai vu. Ouais.
Donc aujourd'hui, vraiment, Persepolis, ça reste une œuvre très accessible, très juste pour comprendre ce qu'a été la révolution iranienne par ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Et vraiment, là, on n'est pas dans la géopolitique, on est dans l'intime, ce qui a brisé des vies, ce qui a provoqué des exils. Et les répliques se font encore sentir aujourd'hui, comme tu l'as dit au début. Voilà.
Les couleurs du monde.
– Alors Patrick, maintenant, dans cette dernière partie, on va voir un petit peu ce qui s'est passé ces 40 dernières années.
Tout à fait.
On dit d'ailleurs que cette révolution de 1979, c'est une révolution religieuse. On parle de révolution islamique. Ça veut dire que le nouveau pouvoir iranien n'est pas démocratique, Patrick ?
Oh, c'est vrai. Alors, la constitution de 79, elle met en place un système politique assez original et assez complexe, en fait. Il y a bien des élections au suffrage universel pour le président, pour le parlement et je crois aussi pour des élections locales. Mais au-dessus de cette architecture démocratique, il y a l'autorité du guide suprême, c'est Khomeini, et d'institutions non élues qui sont le fameux conseil des gardiens de la révolution. Voilà. Alors, ce conseil des gardiens de la révolution, il peut invalider des candidats ou censurer des lois qu'il juge contraires à l'islam. On a un géographe qui s'appelle Bernard Horcade qui appelait ça une polydictature, plutôt qu'une simple théocratie avec un chef unique.
Ok, bah justement, si tu nous en disais un peu plus sur les gardiens de la révolution.
Ouais, il faut en parler. Ouais. On les appelle les Pasdaran. Ouais. Au départ, c'est une force armée qui a été créée en 79 pour défendre militairement la révolution. Et puis, elle est devenue au fil des décennies un acteur absolument central du régime. Des entreprises entières leur appartiennent ou leur sont affiliées et ils ont des représentants qui siègent au Parlement et dans les ministères.
Donc ça montre que le régime iranien est tout sauf une simple dictature religieuse.
Oui, tout à fait. La République islamique, elle n'est pas gouvernée par des mollahs qui psalmodient des versets du Coran prenant leurs décisions. C'est un régime très complexe, avec des interactions multiples, avec des militaires, des hommes d'affaires, des clercs, des technocrates, et des personnes qui ont des intérêts souvent contradictoires. Mais, ils vont se retrouver sur l'essentiel, la perpétuation du régime.
Mais très vite, au début des années 80, il me semble que les Iraniens vont entrer en guerre.
Exact. Le 22 septembre 1980, les troupes irakiennes de Saddam Hussein franchissent la frontière iranienne et vont envahir la province du Khuzestan. C'est le début d'une guerre qui va durer 8 ans, une guerre d'une brutalité extraordinaire, la plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle après les deux guerres mondiales.
Mais alors d'où elle part cette guerre ? Qu'est-ce qui l'a déclenchée finalement ?
On va replacer un peu les choses dans leur contexte. Saddam Hussein, donc le patron dictateur de l'Irak, dont le régime qui est basiste et laïque, basiste c'est une sorte de sous-catégorie, on ne va pas développer ici de l'islam, il est inquiet de la possible contagion révolutionnaire chiite que l'Iran pourrait répandre dans la région. On est en 80, il se dit c'est le moment, le régime iranien est encore fragile, s'il y a une opportunité, j'attaque et je m'empare des riches gisements pétroliers du Khuzestan pour affirmer ma domination dans le Golfe. Ma domination, c'est celle de l'Irak. Il pense que cette guerre sera une promenade militaire, il se trompe lourdement, ça sera un cauchemar pour les deux pays.
Ah, je présume que les États occidentaux ont fermement condamné cette étude de l'Irak.
Et c'est ça que j'aime chez toi, Jean-François, c'est ton sens de l'humour. L'Iran, à l'époque, c'est le grand méchant loup pour l'Occident. Ouais. Donc non, c'est pas le gentil coët, ce qui veut dire que les grands principes pour les États occidentaux, c'est surtout à la tête du client. Pendant toute cette guerre, l'Irak va bénéficier d'un soutien massif de toutes les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, la France et même l'Union soviétique, qui armeront et aideront l'Irak. Et quand Saddam Hussein utilisera les armes chimiques, c'est totalement interdit par la réglementation internationale, toute la communauté internationale va regarder ailleurs. Ah, quoi, j'ai rien vu. Alors on peut noter un point intéressant et important qui sera au centre des tensions au XXIe siècle entre l'Iran et le reste du monde. Comme le politiste Jean-François Bayard l'a écrit, alors que la République islamique avait renoncé au programme nucléaire du Shah, c'est précisément ce soutien occidental à l'Irak et la démission complète de la communauté internationale devant l'usage d'armes chimiques qui a décidé les Iraniens de relancer le programme nucléaire.
D'accord. Et alors, quel est le bilan de cette guerre à peu près ?
Il est terrible. C'est entre 500 000 et 1 million de morts des deux côtés. Ça se termine en août 88. L'Iran sort épuisé de cette épreuve, mais aussi, elle sort soudée autour du régime. La guerre a paradoxalement consolidé la République islamique en lui permettant de mobiliser ce sentiment national. Elle lui a permis de réprimer ses opposants intérieurs au nom de l'Union sacrée et de faire monter en puissance les fameux Pasdaran qu'on a évoqués juste avant. Alors par contre, dans les décennies qui vont suivre, donc à partir de fin des années 80, il y aura des tensions permanentes avec les États-Unis et l'Iran va construire des alliances régionales assez originales. Est-ce que tu veux nous en parler, Jean-François ?
Eh ben ouais, c'est parti. Alors, depuis les années 80, Téhéran a effectivement développé une doctrine militaire et politique très originale que les analystes appellent la stratégie des proxys, ou selon la terminologie iranienne officielle, c'est l'axe de la résistance. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple dans son principe, c'est très efficace dans sa mise en œuvre. Plutôt que d'engager directement ses propres forces armées, ce qui exposerait l'Iran à des représailles immédiates, Téhéran finance, entraîne, arme et conseille des groupes alliés dans les pays voisins.
Tu fais de la sous-traitance en quelque sorte.
C'est ça, tout à fait. Alors ces groupes, ils agissent pour les intérêts iraniens, sans que l'Iran porte directement la responsabilité officielle de
ce qu'il fait. En fait, non, c'est pas nous.
C'est pas nous, C'est donc une guerre par procuration.
D'accord.
Alors le premier et le plus puissant de ces proxys, c'est le Hezbollah libanais, qui est créé en 1982, vraiment dans le chaos de la guerre civile libanaise et de l'invasion israélienne du Liban, qui a le soutien direct des gardiens de la révolution iranien. Et ben le Hezbollah, il va devenir après, au fil des décennies, un acteur vraiment incontournable du Liban et du Moyen-Orient. Ouais. Donc c'est assez original comme organisation, puisque c'est à la fois un parti politique qui siège au Parlement libanais, c'est aussi un réseau social qui va gérer des hôpitaux, des écoles, des services sociaux dans les quartiers chiites, et c'est aussi une force militaire dont la puissance dépasse celle de l'armée libanaise, comme on peut le voir aujourd'hui, depuis que Israël a envahi le Liban, on voit que l'État libanais n'arrive pas à jouer son rôle là-dedans. C'est le Hezbollah qui joue. Voilà.
C'est quoi ? Un jour, on fera une mission sur le Liban, parce que c'est vraiment un pays complexe, et ça vaut le coup, je pense.
Très complexe, tout à fait. Ouais. Alors, deuxième proxy, c'est le Hamas palestinien, qui lui aussi entretient des liens très étroits avec Téhéran, même si la relation est plus complexe, quand même. Parce que le Hamas, c'est un mouvement sunnite, qui est issu de la mouvance des frères musulmans.
L'autre branche principale de l'islam, chiite d'un côté, sunnite d'autre, qui est la branche majoritaire des sunnites.
Oui, 85% à peu près des musulmans du monde. Ouais. Donc, mais finalement, leurs intérêts vont converger autour d'un ennemi commun, Israël.
Tout à fait.
L'Iran ainsi a fourni au Hamas des financements, des technologies militaires, des plans de fabrication de roquettes, et derrière les attaques du 7 octobre 2023, qui ont quand même provoqué la mort de 1200 Israéliens et déclenché l'attaque dévastatrice de Gaza, eh bien, on peut penser que l'Iran a joué un rôle derrière tout ça. Dernière proxy, ce sont les houthistes du Yémen. C'est un mouvement...
On dit houthistes ou houthis ?
On dit les deux.
D'accord.
Voilà, moi, je trouve plus simple de dire houthiste. Alors,
d'accord.
Houthiste, voilà. C'est un mouvement armé qui est issu d'une branche du chiisme qu'on appelle le zaïdisme.
D'accord.
Et qui contrôle depuis 2014 large partie nord du Yémen, dont la capitale Sanaa.
Alors, le Yémen, on peut dire rapidement, c'est à côté de l'Arabie Saoudite.
C'est vraiment au sud de l'Arabie Saoudite, c'est ça,
exactement. Tout à fait.
Bah, justement, ils sont en guerre contre l'Arabie Saoudite.
Exactement.
C'est houthiste. Et puis, il frappe assez régulièrement le détroit de Bab el-Mandeb, qui est vraiment essentiel pour le commerce maritime mondial. Et récemment, ils attaquent encore Israël pour soutenir l'Iran contre le combat israélien et iranien. Voilà.
Au départ, je crois que c'est parti d'une sorte de guerre civile au Yémen qui amenait une partition.
Ouais.
Et en fait, tous les alliés des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, se sont mis du côté de l'ennemi des Houthis. Sauf que les Houthis ont gagné, en fait.
Exactement.
C'est eux qui sont les plus forts au Yémen.
Ils sont plus forts aujourd'hui. Et alors finalement, pour conclure là-dessus, sur cette petite partie, c'est que les stratégies des proxys a permis à l'Iran de devenir vraiment une puissance régionale incontournable, capable de peser donc sur le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen et aussi les territoires palestiniens. Mais ça a aussi un coût derrière parce que ça nourrit l'hostilité de nombreux pays arabes sunnites et ça justifie les sanctions internationales et elle expose donc l'Iran à des représailles croissantes.
Tout à fait. Voilà. Après, en face, ils ont quand même une alliance entre les pays du Golfe qui sont tous du côté américain.
Oui, c'est
Je veux dire, c'est un peu logique stratégiquement que l'Iran ait développé cette stratégie d'alliance pour contrebalancer un peu l'omniprésence des Américains via les pays du Golfe et d'Israël, bien sûr.
Exactement. Ouais. Très bien, parfait. Maintenant, Patrick, est-ce que tu pouvais nous parler des femmes et des mouvements sociaux en Iran ?
Oui, tout à fait, on va en parler. Une des premières décisions du nouveau régime, dès le printemps 79, ça va être, on le sait, d'imposer le voile islamique pour les femmes dans l'espace public. Et très rapidement, il y aura d'autres mesures. L'âge du mariage pour les filles est abaissé, le droit de la famille est islamisé, c'est-à-dire qu'un mari peut toujours divorcer facilement, mais une femme, non, peut plus.
Ouais.
Dans la vie professionnelle, dans l'espace public, de nombreuses restrictions vont s'imposer. La police des mœurs surveille les tenues vestimentaires et les comportements, et il y a des sanctions d'une extrême violence, des coups de fouet, voire pire, qui s'abattent sur ceux qui s'amusent à transgresser les normes.
Du coup, est-ce qu'on peut en conclure qu'on a mis en place une société arriérée ?
Eh oui, mais c'est ça le paradoxe, en fait. C'est que la société iranienne, en même temps, va pas cesser de se développer et de s'éduquer. On a des chiffres éloquents. Le taux d'alphabétisation, qui était très bas en 79, il était de 28% pour les femmes de 15 à 49 ans.
Alors,
il passe à 90% en 2015.
D'accord.
Et aujourd'hui, 99% des filles en Iran sont scolarisées. Les femmes, aujourd'hui, elles représentent plus de la moitié des étudiants à l'université. Elles sont présentes dans les professions libérales, dans les arts, dans les sciences, bref. La société iranienne, elle est urbaine, connectée, cultivée.
Et ça, ça crée des tensions, non ?
Bah oui, inévitablement. Ouais. Hein. Dès la fin de la guerre Iran-Irak, des mouvements de contestation vont se succéder au fil des décennies et chaque fois plus intenses. On peut parler rapidement du mouvement vert de 2009. Mmh. Il se passe après l'élection présidentielle de Ahmadinejad. Voilà, tout à fait.
Qui n'était pas un tendre.
Qui était un dur, tout à fait. Mais en fait, des millions d'Iraniens vont juger, et sans doute à raison, qu'elle était truquée, cette élection. Mmh. Et les rues de Téhéran vont se couvrir de manifestants qui arboreront des rubans verts. Dans la décennie qui suit, la décennie 2010-2020, des vagues de protestations massives vont éclater régulièrement contre l'inflation, contre le chômage, contre la corruption, etc. Sauf qu'à chaque fois, elles vont se solder par des centaines d'exécutions.
Alors on passe assez rapidement aux années 2020, et là, on va voir un changement d'échelle dans les protestations.
Ouais, ça va passer un cran. Déjà en 2022, on a une jeune fille qui s'appelle Mahsa Amini, 22 ans, qui est arrêtée pour voile mal porté. D'accord. Et puis elle meurt en détention. Ça va déclencher un mouvement très fort, mouvement qui s'appellera « Femmes, vie, liberté ». Et pendant des mois, des Iraniennes vont brûler leur voile et manifester. Et au tournant de l'année 2025-26, donc il n'y a pas très longtemps, décembre 2025, c'est la vague peut-être la plus importante de toute l'histoire des mouvements de protestation en Iran. On l'appelle la révolte des bazars parce qu'elle est initiée par les commerçants du bazar qui pourtant sont habituellement quand même des conservateurs, on s'en doute bien. Leur point de départ, c'est l'inflation. Tenez-vous bien, 52% d'inflation. Ça rigole pas. Mais bon, c'est surtout un ras-le-bol généralisé face à la dégradation économique chronique, hein, je dirais, et à l'incapacité du régime à sortir le pays de tout ça et à gouverner correctement. Et là, la répression du gouvernement va passer un cran aussi. Elle va dépasser tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On parle, évidemment, hein, les chiffres ne sont pas évidents à avoir, de dizaines de milliers de personnes massacrées par le pouvoir iranien.
35 000 personnes, il me semble.
C'est terrible.
Ouais. Bien, ben, nous en arrivons quasiment à aujourd'hui, février 2026.
Oui, tout à fait. Le 28 février 2026, c'est l'offensive militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Alors, ce qui est assez choquant, c'est qu'elle se déclenche, cette attaque, au moment même où les États-Unis sont en train de négocier sur le nucléaire avec les Iraniens. On est en fait dans une guerre d'agression en tout point semblable à l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Donc voilà, qui se ressemble, ça semble. Mais la riposte iranienne est immédiate. Et des centaines de drones et de missiles balistiques vont être lancés vers Israël, mais aussi vers les bases américaines militaires que j'évoquais tout à l'heure. Au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite, à Bahreïn. Et l'Iran, elle dit « je vise les États du Golfe » parce qu'ils ont permis que leur territoire serve de rampe de lancement ou d'espace aérien à l'ennemi américain. Et ils étaient prévenus, les États du Golfe. L'Iran les avait prévenus plusieurs années avant que ça se passerait comme ça s'ils étaient attaqués.
Okay.
Les Iraniens attaquent le détroit d'Ormuz, par lequel transitent chaque jour 149 millions de barils de pétrole. Résultat, les marchés mondiaux s'emballent, l'économie se ralentit, tout le monde est affolé. Et c'est un peu le boxon.
Exactement. Mais c'était quel était l'objectif de cette attaque ?
Et c'est là que c'est pas clair, parce que, bon, apparemment, ça serait de mettre fin au régime iranien, mais je pense que c'est surtout que les Américains ont suivi Israël, qui leur a mis un peu, les amis, devant le fait accompli. Mais bon, officiellement, c'est mettre fin au régime iranien.
D'accord. Et ça marche pas vraiment.
Ça marche pas vraiment, ouais, comme on le voit. Le régime est bombardé, décapité, mais il tient. Il tient parce qu'en fait, les dirigeants, selon l'expression de Jean-François Bayard, hein, toujours le politiste qu'on a évoqué, c'est des durs, c'est des gens qui ont survécu à la terreur révolutionnaire de l'Iran dans les années 80-90, c'est des gens qui ont survécu aux décennies de sanctions, ils ont survécu à la guerre contre l'Irak, bref, c'est un régime, globalement, le régime iranien qui s'est institutionnalisé. Quand un responsable tombe, un autre le remplace, et puis c'est tout. Et en face, la demande de Trump à la population civile de se révolter, mais c'est vraiment se foutre du monde.
Bah, oui,
la population civile, elle est coincée entre les bombes et un régime ultra-violent qui est prêt à tout. Donc elle ne va pas soulever les mains vite, c'est clair.
Bah oui, ils viennent d'avoir 35 000 morts d'un coup. Bon,
tout à fait.
Ça paraît compliqué. Alors, peut-on envisager des perspectives pour l'Iran ?
On va essayer. Hein. Trump, lui, de son côté, il espérait un effondrement du régime. Ça n'arrivera probablement pas, hein, mettons des réserves, on va dire. On ne sait jamais, on peut être surpris.
Ouais.
Pourquoi ? Parce qu'aucune intervention militaire extérieure en Irak, en Afghanistan, en Libye, ces 30 dernières années, n'a produit la démocratie ou la stabilité promise. Alors la deuxième option, le deuxième scénario plutôt que plusieurs analystes mettent en avant, c'est celui d'une longue guerre civile qui serait fomentée par des acteurs étrangers financés par les États-Unis, qui armerait par exemple les organisations kurdes iraniennes ou des groupes en exil. Et ça peut même être le but hein, pour Israël, parce que dans ce cas-là, il y aurait un pays, l'Iran, qui serait durablement et pour longtemps neutralisé. Et là, ça ferait les affaires d'Israël. Par contre, pour les Iraniens eux-mêmes, ce serait une catastrophe. Ça pourrait faire des millions de réfugiés, ça pourrait faire une économie plus qu'en ruine, ça pourrait faire une crise humanitaire sans précédent.
Et il y aurait un dernier scénario ?
Oui, le plus simple, hein, c'est que les Iraniens vont résister jusqu'à ce qu'il y ait une négociation un peu bidon et que tout s'arrête là. Et puis tout le monde, les deux côtés, crieront victoire.
Ouais, c'est ça. Et conclusion alors de tout cela ?
Conclusion, ce qui est certain, et c'est peut-être le point le plus important à retenir, c'est que l'Iran ne disparaîtra pas. C'est un pays de 90 millions d'habitants, c'est une civilisation millénaire, c'est une nation profondément consciente de son identité. Et donc, on ne fait pas si facilement table rase de 47 ans d'histoire politique, de millions de vies vécues dans la République islamique. On ne construit pas un avenir meilleur avec une éponge magique qui effacerait 4 décennies d'histoire. C'est Jean-François Bayard qui disait ça. Quelle que soit l'issue du conflit actuel, les Iraniens devront décider eux-mêmes, entre eux, de ce qu'ils veulent pour leur pays.
Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je te remercie pour cette émission.
Merci, auditeur de Calade. À très bientôt.
Au revoir.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture. De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.